auditeurs, auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir François Bergougnan. François, bonjour.
Bonjour Anne-Marie et merci de me recevoir dans les studios.
Voilà, aujourd'hui avec vous, nous allons aborder deux points. Ben déjà, vous allez vous présenter et dans votre présentation tout à l'heure, vous nous direz un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter vers le métier de pasteur. Et puis, dans une seconde partie, nous aborderons votre engagement à l'aumônerie protestante, de manière à ce que vous puissiez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qui vous intéresse dans cet engagement de l'aumônerie protestante, dans les visites que vous faites à certains patients que vous rencontrez, dans un service notamment particulier. Dans un premier temps, que pourriez-vous dire à nos auditeurs, auditrices, pour vous présenter ?
Eh bien, j'ai 55 ans. J'ai trois enfants qui m'accompagnent depuis quelques années, puisque l'aîné a 18 ans et la dernière a 10 ans. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que technicien en électronique. Et rapidement, j'ai repris des études déjà pour devenir ingénieur. Et j'ai fait un doctorat en microélectronique qui m'a amené ensuite à travailler dans des entreprises variées, de haute technologie, notamment dans une entreprise qui a inventé la carte à puce sans contact à Aix-en-Provence. Et dans le cadre, avec ma femme avait aussi des ambitions professionnelles et elle a été amenée aussi à déménager et j'ai profité de ces déménagements pour faire le choix de m'occuper de mes enfants et j'ai passé de nombreuses années à m'occuper des trois enfants. De la naissance jusqu'à l'âge de, il n'y a pas très longtemps, jusqu'à il y a 15 ans. Et en fait, c'est cette expérience auprès des enfants qui m'a petit à petit amené à m'ouvrir à l'Église, je crois. Parce que dans mon parcours professionnel d'ingénieur, il manquait un peu d'humanité, je trouve, dans les équipes de travail, même dans les startups où finalement on a l'impression que c'est une grande famille qui travaille pour une même cause, on se rend compte que quand l'entreprise va pas, quand il y a des choix à faire, souvent les employés en souffrent un petit peu. Et c'est ce manque d'humanité qui m'a poussé à chercher autre chose. Et cette autre chose, je l'ai trouvée déjà en m'occupant de mes enfants, parce que je pense que le fait de se consacrer au quotidien à la vie de famille, qui n'est pas toujours très valorisante, il faut aussi le reconnaître, et c'est aussi valable quand c'est la femme qui cherche, qui s'occupe des enfants. Quant au quotidien, il faut s'occuper des courses, du ménage, de l'organisation familiale, aller chercher les enfants à l'école, garder des enfants malades. Eh ben, on trouve un autre sens à notre vie et on a aussi un autre regard sur le monde qui nous entoure. Dans mes premières années auprès des enfants, je pensais pas du tout à l'église. J'allais au culte le dimanche quand l'occasion pouvait se présenter. Dans le cadre de nos nombreux déménagements professionnels, il n'y avait pas toujours une église protestante à proximité. Donc c'était pas régulier, j'avais pas un engagement régulier auprès de l'église. Et puis il a fallu attendre un déménagement professionnel sur Paris alors qu'on habitait sur Lyon. Je me retrouvais seul la semaine le soir et je suis tombé tout à fait par hasard sur une publicité du Parcours Alpha qui m'invitait à venir, c'était leur devise, ils m'invitaient à venir dîner avec eux le soir. Et je me suis dit, ce soir-là, j'avais rien à faire, le Parcours Alpha, ça se passait dans un temple protestant que je connaissais de nom, dans lequel j'étais jamais rentré. Et je me suis dit, je vais occuper ma soirée avec le dîner du Parcours Alpha. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans ce temple et dans le Parcours Alpha, qui m'a tout de suite plu. L'équipe était agréable, on était bien accueillis, on mangeait bien, le repas était copieux et les réunions étaient très très intéressantes. Finalement, le Parcours Alpha m'a permis de découvrir m'a donné une autre image de l'Église. Je gardais une image de l'Église très traditionnelle, Voilà, le catéchisme, j'y suis allé quand j'avais le temps, quand j'avais envie. Mes parents ne m'obligeaient pas du tout à aller au catéchisme. J'allais au culte le dimanche avec mon père parce que finalement, j'aimais bien mettre la pièce au moment de la quête. Et puis, j'aimais bien partir avec lui après le culte, aller chercher les gâteaux pour le dessert à midi. Mais ce n'était pas une véritable passion. Et le parcours Alpha, donc, m'a donné cette image, m'a permis de redécouvrir la lecture de la Bible, mais dans une application au quotidien. C'est ce qui m'a plu et c'est ce qui m'a frappé, je crois, dans ce parcours Alpha. La pédagogie du parcours Alpha, qui n'est pas du tout improvisée, qui est très bien construite, qui est très bien réfléchie. Pendant ce parcours Alpha, j'ai vécu des choses très fortes avec les animateurs, des choses passionnantes, des choses tristes aussi. Je me souviens d'une personne qui participait au parcours, comme moi. On faisait une lecture d'un texte dont je ne me souviens plus les références, mais dans la Bible. Et dans les commentaires que nous faisions, le commentaire a extrêmement choqué cette personne et elle s'est sentie totalement rejetée. Elle ne se reconnaissait plus du tout dans la lecture de ce texte biblique. Et on ne l'a jamais revue à la suite du parcours Alpha. Parce qu'on avait tenu des propos qui lui paraissait totalement aberrant par rapport à une vie de souffrance. Elle avait perdu un enfant brutalement en jeune âge et elle ne comprenait pas comment on pouvait, dans une église, tenir des propos pareils sur, peut-être, je ne me souviens plus trop, si c'était la résurrection ou quelque chose. C'était un thème qui lui paraissait complètement à côté de la plaque. Donc, c'est un moment qui m'a frappé parce que je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on pouvait avoir une lecture de la Bible peut-être inappropriée. Je pense que c'est ça. C'était une lecture inappropriée parce qu'on avait, on avait fait fuir quelqu'un devant cette lecture. Donc, je sais que cet événement m'a frappé et je m'en souviens encore, même si je ne me souviens plus des détails. Par contre, il y a eu plein de partages avec d'autres personnes qui, grâce au parcours Alpha, redécouvrer la confiance en Dieu dans la recherche de travail, par exemple. Des gens qui étaient depuis longtemps au chômage, à travers le parcours Alpha, ils reprenaient confiance en eux, et grâce à la foi qu'ils se redécouvraient, et en se disant « j'ai confiance, je retrouverai du travail ». Donc ce parcours Alpha a été vraiment déterminant pour moi, et c'est d'ailleurs au cours du parcours Alpha que je suis tombé sur un prospectus de l'Église protestante qui encourageait les gens à devenir pasteur. Donc j'ai pris ce prospectus un peu machinalement parce que je prenais tous les papiers à l'entrée de l'église pour les lire le soir. Et ce papier m'a suivi longtemps comme marque-page dans mes livres. Et puis, ça m'interrogeait. Voilà, je me dis, devenir pasteur, au début, ça me paraissait totalement incongru comme idée. Mais l'idée a fait son chemin. Ensuite, nos engagements professionnels nous ont amenés, de ma femme, nous ont amenés en Alsace. Et j'ai rencontré un pasteur alsacien dans le cadre d'un engagement auprès des associations de parents d'élèves. Vous le savez peut-être, en Alsace, il n'y a pas la séparation de l'Église et de l'État. Et il y a des cours de religion dans les écoles publiques, où les élèves peuvent découvrir les religions catholiques, protestantes et juives en théorie. Et en tant que président d'une association de parents d'élèves, je devais rencontrer les responsables des cultes pour organiser cet enseignement au sein des établissements desquels j'étais responsable. Et en rencontrant le pasteur, un jour, je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir pasteur ? Si aujourd'hui je veux devenir pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et il m'a dit, il faut, une des choses à faire, c'est d'apprendre le grec et l'hébreu pour les études. Alors là, je me suis dit, c'est pas pour moi, en fait. J'étais déjà pas très bon en langue, en anglais, en allemand, les langues scolaires. Donc, me lancer dans l'hébreu et le grec, et ça me paraissait totalement impossible. D'autant plus que je comprenais pas l'objectif, parce que la Bible ayant été déjà traduite, il y avait eu plein de traductions au fil des siècles passés. Quel est l'intérêt de pouvoir lire des textes dans leur langue d'origine? Donc je ne voyais vraiment pas l'intérêt. Donc j'avais un peu exclu cette idée de devenir pasteur. Et puis, les années sont passées, ça a fait, il y avait toujours peut-être mon marque-page avec « Devenez pasteur » dans mes livres. Et j'ai quand même décidé de m'inscrire par curiosité à un cours par correspondance avec la faculté de théologie protestante de Montpellier pour tester, pour me tester, pour tester les cours par correspondance. Et quand il a fallu faire le choix du cours, j'ai choisi un cours mais dont le titre ne me parlait absolument pas. C'était, je pense, ça se trouve, c'était dogmatique. Je savais à peine ce que ça voulait dire. Ça me paraissait très compliqué à aborder. Mais j'ai choisi cet intitulé et ce cours en me disant, bah, ça passe ou ça casse. J'aurais testé, comme ça, j'aurais pas de regrets. Et finalement, je me suis lancé tant bien que mal dans ce cours. Mon épouse m'a aidé un petit peu parce qu'elle était beaucoup plus littéraire et universitaire que moi. Donc quand à la fin, il a fallu valider avec une dissertation, c'était la première fois de ma vie, je pense, que je faisais une dissertation. Mais finalement, j'ai validé ce cours. Donc les années suivantes, ben, j'ai pris un autre cours, deux cours. Et de fil en aiguille, bah, je suis arrivé à Montpellier en 2017, en troisième année de licence de la faculté de théologie, pour suivre les cours en présence, et avec le projet d'être pasteur, j'espère, dans 2 ans.
Merci beaucoup pour cette introduction. Et donc, vous avez, pendant cette année, pu côtoyer des gens dans l'église, dans la communauté, être dans un groupe un peu pour voir la complémentarité qu'il y a entre les cours et la pratique?
Oui, 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 tout à fait. J'ai eu divers engagements pendant cette année universitaire. Alors, un des engagements, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, c'est mon engagement auprès de l'aumônerie des hôpitaux ou des cliniques. Par ailleurs, j'ai pu suivre presque pendant toute l'année les séances de théovie à Jacou. Ce qui m'a permis de redécouvrir ce milieu aussi œcuménique de théovie, qui est très intéressant, parce qu'il y a un partage d'expériences, un partage de vie, un partage de lecture, puisqu'on n'a pas tous les mêmes lectures des textes bibliques. Et pouvoir partager notre compréhension de la Bible avec des catholiques, c'est d'une richesse... c'est d'une richesse... immesurable.
Merci. Alors, vous allez peut-être pouvoir dire à nos auditeurs quelle est la pause musicale que vous avez choisie, quel est le morceau que vous avez choisi.
Alors, j'ai choisi une musique de Bourvil qui s'appelle La Tendresse. Alors, Bourvil, dans ma génération, on connaît Bourvil surtout pour ses rôles dans les films et pour son air un petit peu perdu. Et comme chanteur, je le connaissais mal. Et ma fille m'a fait découvrir il y a quelques jours, quelques semaines, une chanson qui s'appelle La Tendresse, qui est chantée par un groupe d'enfants qui est un peu à la mode chez les jeunes, qui s'appelle Kids United. Et cette chanson s'appelle La Tendresse. Et puis en cherchant d'où venait cette chanson, j'ai vu que c'était en fait une reprise de chanson de Bourvil. Et j'ai trouvé que le thème de cette chanson, la tendresse, est un thème essentiel dans notre vie tous les jours, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé dans l'aumônerie des hôpitaux. C'est pour offrir un petit peu de tendresse à des gens qui sont dans des situations précaires, vulnérables, et j'ai trouvé que cette chanson était très appropriée.
Merci, nous écoutons cette musique et cette chanson.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse,
il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour. Règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
Amis auditeurs, auditrices, nous nous retrouvons après cette très belle chanson qui a donc été écrite par Bourvil, Tendresse, et qui se termine sur Mon Dieu, mon Dieu. Et elle introduit donc cette deuxième partie de l'émission avec notre invité, François Bergougnan, qui, après nous avoir expliqué comment et pourquoi il est parvenu à s'orienter vers ce nouveau métier de pasteur, il est donc en train de faire les études de théologie à l'Institut protestant de théologie à Montpellier. Il va nous parler plus précisément de son engagement dans les visites au sein de l'aumônerie protestante. Alors, en quoi cette chanson, mon Dieu, cette prière et votre engagement sur les visites vous tient à cœur, François ?
Effectivement, c'est un petit peu le hasard qui m'a amené aux aumôneries des hôpitaux, aux aumôneries des cliniques, parce que dans le cadre de mes études à la faculté de théologie protestante, je devais faire un stage. Et le choix du stage est toujours difficile parce que ça dépend de nos propres intérêts, mais on a envie aussi de découvrir quelque chose de nouveau, différent, quelque chose qu'on ne connaît pas. Et mes critères de choix, en fait, étaient divers. Je voulais un lieu d'écoute pour écouter l'autre. J'avais déjà eu une expérience de l'écoute au sein d'un engagement associatif à SOS Amitié il y a quelques années. Et j'avais trouvé cette expérience d'écoute très enrichissante. D'autant que j'ai du mal à écouter dans la vie de tous les jours et je parle beaucoup. Donc je voulais un lieu d'écoute. Ensuite, je voulais un lieu de parole. Un lieu où s'exprime la parole avec un P minuscule, mais aussi avec un P majuscule. Un lieu où on peut, où l'évangile peut s'exprimer sous différentes formes, par du langage, mais pas obligatoirement que du langage, ou sous différentes formes de langage. Et je voulais aussi un lieu d'accueil de personnes vulnérables. Alors j'ai hésité au moment de ce choix, j'ai hésité avec l'aumônerie des prisons, qui était un lieu qui m'attirait également. Et finalement, je me suis dirigé vers l'aumônerie des hôpitaux, parce que tout de même, le milieu médical d'où je venais, puisque mon père était médecin, mon grand-père aussi, ils sont toujours occupés en fait de personnes démunies d'une manière ou d'une autre. Donc j'avais envie de prolonger cette expérience. Donc je me suis dirigé vers l'aumônerie des hôpitaux. Et le lien avec cette chanson, justement, est très fort parce que ce que Bourvil demande à Dieu à la fin de sa chanson, c'est que finalement, il y a quand même de la tendresse qui vient inonder le cœur des hommes d'une manière ou d'une autre, et quelle que soit la situation de vulnérabilité dans laquelle on peut se trouver.
Et je crois que vous faites des visites dans un service où les patients se trouvent dans un état particulièrement complexe.
Oui, effectivement. Alors, je fais des visites à la clinique Fontfroide dans un service de personnes en état végétatif. Le mot peut faire peur. Et d'ailleurs, les médecins utilisent une autre définition pour décrire une personne en état végétatif. Ils disent que c'est une personne éveillée en état de conscience altérée. Et la définition est déjà un peu plus belle, je trouve, que végétatif, mais surtout décrit très bien la situation de ces personnes. Parce que quand on s'adresse à une personne en état végétatif dans ce service, en tout cas les personnes que je visite, vous avez vraiment l'impression d'être avec une personne qui est en quelque sorte en train de se réveiller. Ça m'a souvent fait penser, quand j'étais obligé de réveiller mes enfants pour quand ils étaient petits, vous réveillez un enfant à 3h du matin parce que vous devez partir en voyage, votre enfant, il est un petit peu perdu, il ne sait pas trop qui est cette personne qui vient le réveiller. Et j'ai eu un peu cette impression avec les patients de ce service. Et alors, toute la difficulté quand on rentre dans un service comme celui-ci, c'est de se dire comment on s'y prend ? Comment on s'y prend ? On rentre dans une chambre, vous avez une personne qui est alitée, qui est généralement, qui ne peut pas bouger ses membres, je pense à une personne qui ne peut communiquer qu'avec les yeux. Donc les yeux bougent de haut en bas et de droite à gauche, mais c'est tout. Et vous ne savez même pas, quand vous lui parlez, si finalement elle comprend ce que vous lui dites. Donc les premières visites dans ce service étaient assez difficiles parce que vous arrivez, vous ne savez pas comment vous y prendre et vous ressortez, vous avez l'impression, vous vous dites, est-ce que j'étais utile finalement ? Parce que la personne, vous n'avez même pas de retour. La personne, elle ne peut même pas vous dire merci, merci du temps que vous avez passé avec moi. Alors, sur les trois personnes, les trois personnes que je visite dans ce service, il y en a deux où il y a en permanence la famille. Pour l'un, c'est sa femme, pour l'autre, c'est sa maman. Et j'ai découvert des familles, mais disponibles, je dirais, à 200% pour le malade. Et je pense à cette femme qui, depuis 5 ans, puisqu'il y en a un, suite à un accident de vélo, qui est arrivé dans ce service, dans cet état-là, dans l'état végétatif, ils avaient, je crois, à peu près 60 ans au moment de l'accident. Ils n'habitaient pas sur Montpellier. Et sa femme a décidé de prendre un petit studio à côté de la clinique pour rendre visite à son mari tous les jours, et passer 4 heures l'après-midi avec lui. Voilà, passer du temps avec lui. Pour l'autre personne, c'est le monsieur a eu un accident de moto, et c'est sa maman qui a aujourd'hui 85 ans, qui fait 3 heures de trajet en tram chaque jour, aller-retour, pour venir voir son fils et lui parler, le masser, le caresser, l'encourager dans ses progrès, les petits progrès qu'il peut faire chaque jour. Donc j'ai vraiment découvert un dévouement exceptionnel, je trouve, de la part de ces personnes. Alors, exceptionnel, moi je trouve que c'est un dévouement exceptionnel. Quand j'en parle avec mes collègues, les autres visiteurs de l'aumônerie des hôpitaux, finalement, les autres visiteurs me disent dans ces milieux hospitaliers, toutes les familles sont exceptionnelles parce qu'elles, dès qu'elles peuvent, elles se dévouent totalement aux patients. un autre visiteur qui va avoir des personnes atteintes de la maladie, par la maladie d'Alzheimer, disait également qu'il était impressionné de voir les conjoints venir parler avec leur conjoint malade et faire ce qu'ils pouvaient et passer du temps avec ces gens-là.
Et en quoi vous diriez que c'est une mission de l'Église que d'accompagner par ces visites ces personnes qui sont finalement en marge de notre société ?
Alors la mission de l'Église, à mon avis, elle est multiple d'abord. Et je crois qu'elle est, elle doit donner la possibilité aux gens d'avoir un autre regard sur le monde et sur la vie. Déjà, je crois que c'est peut-être la mission principale de l'Église, c'est d'offrir un autre regard. Et quand on rend visite à ces gens à la clinique ou à l'hôpital, des gens qui peuvent être désespérés face à la maladie, face à la souffrance, face à un avenir très incertain, eh bien, dans les discussions ou dans notre position ou dans le partage d'expériences ou dans le partage de lectures, ces gens-là trouvent une espérance ailleurs que dans la maladie. Et je crois que l'Église le devoir de l'Église, c'est d'apporter cette espérance-là.
Vous me disiez hors antenne que vous vous êtes interrogé à l'occasion de ces visites sur le silence de Dieu. Que pourriez-vous nous dire là-dessus ?
Le silence est important dans le cadre de ces visites dans un service de personnes en état végétatif, parce que les personnes ne peuvent pas parler ou très mal ou avec une très grande difficulté. Et si j'ai le temps, j'aimerais parler d'une petite expérience du silence que j'ai vécue avec une de ces personnes. Je me suis retrouvé avec ce monsieur, sa femme n'était pas là ce jour-là, et je me suis retrouvé avec ce monsieur tout seul. J'avais prévu, sa femme était au courant que je devais venir lui rendre visite, et donc je ne suis pas arrivé à l'improviste, elle l'avait prévenu la veille, et je suis arrivé, je me suis présenté, ce monsieur était affolé. Il m'a vu, il avait le regard qui partait dans tous les sens, et j'ai essayé de le calmer en lui parlant, j'ai éteint la télévision pour éviter qu'il soit perturbé par plusieurs choses, et le silence s'est installé parce que j'ai essayé de dire deux, trois phrases banales pour qu'il reconnaisse ma voix, pour qu'il se souvienne de moi, et après j'avais plus rien à dire, je me suis mis à côté de lui, le silence s'est installé, et là les yeux se sont calmés. Et on s'est retrouvé dans le silence pendant une minute, deux minutes, et ça vous paraît long. Ça vous paraît long parce que vous êtes là à côté d'une personne et vous ne savez pas quoi dire. Et j'ai sorti un livre, un recueil de prières d'André Dumas, et j'avais choisi auparavant ce texte, et j'ai proposé à ce monsieur, je lui ai dit, écoutez, je vais vous lire un texte, une prière d'André Dumas. Je ne savais pas s'il me comprenait. Et j'ai commencé à lire mon texte, et il a fermé les yeux. Et je ne savais pas s'il comprenait ce que je lui disais ou s'il fermait les yeux parce qu'il était fatigué et qu'il était en train de s'endormir parce que je marmonnais quelque chose à côté de lui. J'ai lu mon texte, ça a duré une minute, deux minutes. Et à la fin de mon texte, retour au silence, je me suis tu. Et là, ça vous paraît long. Et là, ce monsieur a ouvert les yeux et il a tourné les yeux vers moi. Et j'ai interprété cette attitude, ce mouvement des yeux. Je crois qu'il est rentré en communion avec moi, avec la prière que j'étais en train de lire. Alors évidemment, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il a compris. Mais c'était un moment de silence très très fort.
Merci beaucoup, nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que nous vous réinviterons pour nous parler de ces expériences de vie et en même temps d'église que vous faites, parce que je crois que nos auditeurs, auditrices, qui peuvent tout un chacun être touchés par des situations semblables, auront plaisir à entendre ces témoignages. Nous remercions Stéphane qui était à la régie et je vous dis à samedi prochain. François, au revoir et merci.
Merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir.